Je vais prier. Seigneur, nous voulons voir ta face. Nous voulons, Seigneur, pouvoir te contempler. Seigneur, nous voulons, alors que nous sommes devant toi, recevoir de toi. Seigneur, savoir que la parole qui nous vient est la parole de Dieu et que de cette parole nous pouvons retirer de la vie. De la vie pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Seigneur, nous voulons être à tes pieds, être enseignés par toi. Seigneur, comprendre des choses que jusqu'à présent nous n'avons jamais compris. Seigneur, recevoir des réponses. Seigneur, parfois nous passons tellement de temps à te demander de répondre et si peu de temps à écouter les réponses que tu nous donnes. Aujourd'hui, ô Dieu, nous voulons avoir le cœur ouvert et recevoir des réponses définitives dans notre cœur, afin, Seigneur, que nous puissions partir dans la paix et dans le repos que tu promets. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais que nous allions dans l'évangile de Jean. Et je vais lire au chapitre 2 et au verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Je vais essayer de faire ma prédication autour de ce verset. Ça ne va pas être facile parce que je n'ai pas trouvé le travail facile. Mais j'espère que le Seigneur va me donner la capacité de le faire. En gros, il y aura trois parties. La première, c'est que Jésus sait tout. Il connaît tout. La deuxième, c'est que beaucoup de gens venaient à lui en permanence. Beaucoup de gens l'approchaient de différentes manières. Sachant que Jésus savait et connaissait tout. Sachant que Jésus faisait des miracles. Mais Jésus n'approuvait pas toutes les façons de venir à lui. Cette connaissance de Christ sur l'homme, cette façon de venir à Christ de la part de l'homme, même si ça ne plaît pas toujours à Christ, la réponse qu'il donne est une et une seule. Je suis venu pour sauver. Si on s'arrête sur la première personne qui est venue voir Jésus, c'est quelqu'un finalement qui n'est pas venu voir Jésus, mais qui est quand même venu voir Jésus, c'est Nathanaël. Nathanaël était un homme dans lequel il n'y avait pas de fraude, a dit Jésus. À d'autres, il a dit d'autres choses. Il a dit, vous ne savez rien. Vous ne savez pas. Il a dit aux pharisiens notamment. La façon dont Jésus nous voit est très différente de la façon dont nous nous voyons. À dessein, j'essaierai de ne pas utiliser le terme d'omniscience pour Jésus dans le contexte des évangiles. Parce que je crois qu'avant tout, Jésus était homme et que la connaissance qu'il avait de l'homme n'était pas une connaissance aussi parfaite que celle que Dieu a de l'homme, mais qu'elle était liée à son état spirituel, c'est-à-dire à sa pureté intérieure, qui lui permettait de jauger et surtout de juger ce qui était dans l'homme. Nous, on a l'habitude de voir les choses de façon un peu binaire, c'est-à-dire celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien. Celui-là, il s'est donné au Seigneur, donc désormais, il est bien. Celui-là ne s'est pas donné au Seigneur, en tout cas, on ne l'a pas vu, donc il n'est pas bien. On est très de cette façon-là, n'est-ce pas ? Ça facilite énormément la vie. On peut passer à d'autres choses rapidement. Voilà, on a classé, hop, on fait autre chose maintenant. C'est dommageable et je suis bien content que le Seigneur n'ait pas fait ça avec aucun d'entre nous. Et nous le verrons. Parce que Jésus, en fait, ne regarde pas... c'est dans Samuel, je crois, l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à ce qu'il voit, quoi, à ce qu'il peut mesurer. Et c'est toujours la réponse que je donne lorsqu'on essaye de décrire sur l'Église, sur le monde chrétien. La limite, elle est toujours celle du mesurable et du quantifiable. On ne peut que faire un ouvrage sociologique si on écrit sur le monde chrétien. Ça n'est pas possible de faire autre chose. On ne peut que compter des signatures dans des associations. On ne peut que faire ce genre de travail-là si on essaye de juger de l'état de l'Église et du monde chrétien. Et il y a beaucoup de gens qui s'essayent à le faire, même certains qui sont des évangéliques apparemment, qui essayent de d'écrire de façon très pointue là-dessus. Le résultat, ça n'est rien que des résultats chiffrés, ça n'est rien que des choses qui frappent les yeux. Jésus n'a pas connu l'homme de cette façon-là. Il ne s'est pas arrêté à ce qui frappait les yeux. Et donc c'est avec un regard suraiguisé, avec une connaissance surabondante de l'homme, que Jésus a développé tout son ministère sur la terre. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux choses à retenir dans tout l'évangile de Jean, mais surtout peut-être les sept premiers chapitres. La première, c'est que Jésus connaît. Et la deuxième, c'est que de nombreux hommes cherchaient à l'approcher. On peut voir Jésus un peu comme un révélateur. Ceux qui ont fait de la photo savent ce que c'est qu'un révélateur. C'est qu'on a une feuille blanche. A priori, il n'y a rien dessus. On la met dans un produit et il y a une image qui apparaît. Et lorsque les gens s'approchaient de Jésus, ils couraient toujours un risque. C'est celui c'est le risque que Jésus révèle en eux le problème. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à l'aise dans vos baskets et tout d'un coup de vous retrouver devant une personne, à discuter avec une personne qui vous révèle quelque chose sur vous. Elle ne le sait peut-être même pas. Mais tout d'un coup, dans la conversation, dans ce qu'elle vous dit, elle vous révèle quelque chose. Et croyez-moi, c'est dévastateur. C'est bénéfique, mais c'est dévastateur. Et je souhaite que cela vous arrive, et surtout que lorsque cela vous arrive, vous répondiez à cela avec humilité de cœur, et que vous répondiez donc à cette demande du Seigneur qui est d'agir sur ce qu'il vous a montré. Le but de l'évangile de Jean, on le lit dans le chapitre 20, ça c'est encore la troisième partie, vous croyez, les choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus était le Messie. Et pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence. Pour les personnes à l'époque, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pour personne. Ça n'était pas pour les disciples. Ça ne l'était pas pour les pharisiens, de toute façon pas. Ça ne l'était pour personne, même pas pour Nathanaël. Si l'on lit le passage... Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël n'était pas du tout convaincu que Jésus était le Messie. Nathanaël était sans doute de ceux qui n'attendaient pas le Messie. Pas vraiment, en tout cas. En tout cas, pas celui qui était là et qui faisait beaucoup d'agitation dans tous les coins à l'époque, puisqu'il y avait plusieurs qui se disaient être des Messies. Donc le travail de Jésus sur la terre, lorsqu'il a commencé à exercer son ministère, c'était d'essayer, et il y arrivait à chaque fois, de rendre visibles ceux qui étaient invisibles. C'était de faire surgir la vérité dans les cœurs des personnes. Aujourd'hui, si vous faites de la philo, on vous dira que la vérité, ça n'existe pas. La parole de Dieu ne dit que la vérité existe. Et un des grands problèmes de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il croit que la vérité n'existe pas. Et si vous croyez que la vérité n'existe pas, alors jamais vous ne pourrez croire que vous serez libre un jour. Parce que la parole dit que c'est la vérité qui vous rend libre. Et Jésus est la vérité. Et ça, c'était ce qu'il s'appliquait à faire, c'est-à-dire rendre visible l'invisible, c'est-à-dire montrer que la vérité qui avait disparu existait vraiment. Et ça, il le faisait en jugeant les cœurs des gens, des personnes qui étaient autour de lui, et en leur montrant qui ils étaient vraiment, ce qu'ils étaient vraiment, et quels étaient leurs besoins. Aujourd'hui encore, Jésus a besoin de montrer qu'il est la vérité. Parce que lorsqu'on l'a capté, alors on sait qu'on peut s'approcher de lui pour recevoir le salut. il les connaissait tous. Quand je me suis penché sur ce verset, je me suis dit, bon, Jésus était à Jérusalem souvent pour la Pâque, depuis longtemps. Est-ce que il connaissait ces gens qui le suivaient parce que c'était des gens qu'il, vous savez, comme dans une convention, tous les ans, on rencontre les mêmes personnes aux mêmes endroits, assis sur les mêmes chaises, et ah, comment ça va depuis l'année dernière, et tout. Et donc, sur 10, 15, 20 ans, vous voyez les enfants grandir, vous voyez les parents devenir des grands-parents, et ainsi de suite. Il les connaissait tous ceux qui étaient là à Jérusalem. Et tous savaient qui était Jésus, parce qu'à 12 ans, Jésus avait fait impression dans le temple. Et sans doute que plus tard, il avait continué à discuter avec les rabbis qui étaient là, à parler de Dieu. Mais un jour, il s'est passé autre chose. C'est que ce même Jésus a commencé à faire des miracles. N'est-ce pas ? Voyant les miracles qu'il faisait, plusieurs crurent en son nom. Et là, ils se sont dit, finalement, c'est peut-être celui-là, le Messie. Puisque il ne fait pas que causer, il fait aussi des miracles. Donc les gens ont commencé à s'intéresser à lui à cause des miracles qu'il faisait. Et Jésus était tout content et s'est dit, enfin, il y a mon ministère qui commence, maintenant ça va. Hein? Et alors il disait, mais je ne sais pas s'il leur disait, peut-être qu'il ne leur disait pas. En tout cas là, il ne leur a pas dit explicitement, mais il le pensait. Je ne vous fais pas confiance. C'est ça que cela veut dire. Ne se fiez point à eux. Vous venez à moi, vous me dites que vous croyez en mon nom, mais je ne vous fais pas confiance. N'est-ce pas ? On a l'habitude de dire que mais venez à Jésus, venez à Jésus, venez. Alors il venait, et Jésus disait, moi je ne vous fais pas confiance. C'est pas habituel, n'est-ce pas ? On n'entend pas ça habituellement. Mais c'est Jésus qui parle. Parce que il les connaissait tous, il savait qui ils étaient, et que ça lui suffisait. Il avait jugé. Ah oui, mais Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Certes. C'est effectivement ce qui se passait. C'est que, en jugeant la réalité des cœurs, il était en train de les sauver. Parce que s'il avait fait l'inverse, il n'aurait pas été en train de les sauver, il aurait été en train de les tromper. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Alors ça, c'est fabuleux, parce que, je ne sais pas, dans... parfois au travail, dans certaines situations, vous avez toujours celui qui est le spécialiste de l'homme. Et alors, il va parler pour les autres. Il va dire, alors, et souvent, des fois à votre patron même. Vous savez, lui, il fait son travail, mais là, quand même. Et donc, ils vous font un rapport complet sur la personne. C'est toujours pour votre bien. En fait, c'est comme une maladie chez certains hommes, ou chez certaines femmes. C'est que, peut-être parce que, par humilité, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, donc ils parlent des autres, exclusivement. Celui-ci, celui-là. Et vas-y, et je te charge, et je te fais une fiche. Et donc, ce sont des spécialistes de l'homme. Jésus n'avait pas besoin qu'on vienne le voir pour lui expliquer comment était fait l'homme, comment était fait son voisin. Parce Par contre, il y a une chose qui est indispensable pour l'homme, c'est qu'il rencontre un vrai homme. C'est-à-dire qu'il rencontre le seul qui est un homme à part entière, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? C'était la parole de la Samaritaine. Lorsqu'elle est allée voir ses amis, elle dit « Venez, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai rencontré un homme. » Vous voyez, Jésus n'a pas besoin que qui que ce soit vienne lui faire un rapport sur qui que ce soit. Par contre, nous avons besoin de Jésus, de l'homme qui lui connaît l'exacte vérité sur nous-mêmes. Et c'est cette connaissance exacte de Jésus qui nous sauve. C'est pas la connaissance que nos amis ont sur nous qui nous sauve. C'est pas ce que nous savons sur les autres qui va amener le salut dans leur vie. C'est ce que Jésus connaît de moi et de lui. Il savait lui-même ce qui était dans leur cœur. Et ça, c'est la perfection de la connaissance des choses. Jésus était ultra sensible au péché. Et on ne peut pas comprendre ce que ça signifie que d'être ultra sensible au péché. Justement parce que notre nature est pécheresse. Mais Jésus n'avait pas de péché. Et le seul fait d'être pur à 100% faisait qu'il était, comme je l'ai dit il y a quelques jours, je ne sais plus à qui, le maître étalon. Il était la référence. Il était celui qui était le premier et le seul dans sa situation-là. C'était la mesure idéale. C'était sur lui seulement qu'on pouvait venir pour essayer de se mesurer, de jauger comment, où on en est, comment on est par rapport au péché. Hein, c'est à Paris, je crois, qu'il y a ce maître étalon. Il me semble, c'est ça, hein. Un endroit à Paris, à Sèvres. Je sais pas, c'est des vieux souvenirs. Mais, donc c'est le maître est là et on peut venir vérifier ses mesures. Et Jésus est le seul qui est à la bonne mesure. Il est le seul. Et je pense que ce qui se passait lorsqu'on venait l'approcher, c'est que automatiquement, il n'avait pas besoin de juger, mais de façon automatique, on va dire, l'homme se jugeait lui-même. Il se sentait accusé par son péché lui-même. Jésus n'avait pas besoin de dire ceci, ceci, cela. C'est que la pureté de Jésus montrait quelle était la distance qui le séparait de lui. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour être la référence. Et pour que l'homme se rende compte qu'il avait besoin d'être sauvé. Donc, comme je l'ai déjà dit, les hommes s'approchaient de toutes les manières de Jésus. Et Jésus n'approuvait pas toutes les démarches. Ça signifie quoi, finalement? Ça signifie que, d'une certaine manière, il y a des gens qui sont plus difficiles à sauver que d'autres. On pourrait dire que non, on est tous les mêmes, finalement, devant le péché. Oui, dans un sens, c'est vrai, on est tous des pécheurs. Et de ce point de vue-là, on a tous besoin d'être sauvés. Mais si l'on s'attache aux rencontres que Jésus a faites, et on va les voir un peu, on va voir que c'est pas pareil. Il y a des différences dans la façon dont les gens se sont adressés à Jésus et des différences dans la façon dont Jésus a jugé de la situation. Si l'on prend Nathanaël, Nathanaël n'était donc pas de ceux qui se précipitaient aux mains d'événements. Hein, il n'était pas de ceux qui, ah, le Messie est là-bas, donc il courait là-bas. Non, le Messie est là-bas, donc il courait par là. Nathanaël était assis sous son arbre. Je ne sais pas s'il se disait, si le Messie vraiment est là, eh ben, il viendra me voir. Peut-être qu'il se disait ça. Et quand on lui a dit, ben justement, le Messie est là, il dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et à ce moment-là, Jésus aurait pu lui dire, Nathanaël, je te donne le premier prix du manque de foi. Et Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, voici un vrai Israélite. Un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Il a dit ça parce que Nathanaël avait vu juste. Il ne peut rien venir de bon de Nazareth. C'était le même constat que Jésus avait fait lui-même. C'est que quand il était chez lui, il ne pouvait pas accomplir de miracles. Parce que chez lui, il n'était pas bienvenu. Il n'a pu faire que quelques miracles en imposant les mains. Nathanaël avait l'esprit clair. Il avait la même idée que Jésus sur Nazareth. Nul n'est prophète en son pays. Donc, Nathanaël avait quelque chose dans son cœur qui exprimait la vérité des choses. Et Jésus a reconnu ça en lui. Si on va un peu plus loin, donc je saute l'épisode qu'on vient de voir et on va chez Nicodème. L'histoire de Nicodème suit immédiatement l'histoire que je vous ai lu avant, dans laquelle Jésus ne se fiait point à eux, au chapitre 2 et au verset 25. Et là, ceux qui ont rédigé, enfin, qui ont mis les chapitres, les sections dans la Bible, ont mis le chapitre 3 à cet endroit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'on peut très bien le lire comme ça. Donc, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème était dans ceux qui étaient là, présents, et qui avaient cru dans le nom de Jésus. Et il avait vu ces miracles-là. Et il porte un jugement sur la situation. Il est, lui, l'érudit, et d'une certaine manière, il se sent poussé à aller voir Jésus pour lui rendre témoignage et pour lui dire manifestement, avec toi, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit. Parce qu'on ne peut pas faire les miracles que tu fais si personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est une belle déclaration de foi, mais c'est une déclaration de foi naturelle. Ce n'est pas une déclaration de foi spirituelle. un musulman pourrait faire la même déclaration sur Jésus que celle que Nicodème a fait. Les musulmans croient que Jésus vient de Dieu, enfin, et ils croient qu'il fait des miracles, ils croient même qu'il va revenir. Donc, Nicodème faisait une déclaration de foi qui était logique, qui était rationnelle, qui correspondait à son niveau d'étude, n'est-ce pas ? Je suis un érudit, Jésus dira, tu es le docteur d'Israël, donc mon attitude vis-à-vis de Jésus, elle doit être logique. Il a fait des miracles. Manifestement, il y a quelque chose chez cet homme qui est de Dieu. Et il lui a dit. Il lui a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous savez ensuite la réponse que lui donne Jésus. Et si on va tout de suite au verset 10, on entend Jésus en conclusion qui lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas. Tu viens de me dire que tu sais. Eh bien, moi, je te dis que tu ne sais pas. Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Ça, c'est la réponse de Jésus à Nicodème. Vous ne recevez pas notre témoignage. On sait que Nicodème, après, va changer de position, bien sûr. Voilà donc une autre approche du Fils de Dieu lorsqu'il était sur la terre. Si on avance un peu, on va dans Jean 5, on arrive au verset 16. Oui, pardon, c'est juste un peu plus bas. Donc au verset 16, jusque, je vais lire un peu. En fait, je ne crois pas que c'est celui-là. Je me suis trompé de référence, excusez-moi. Je cherche le passage où les pharisiens le poursuivaient. Ah voilà, c'est là. Donc oui, Jean 5, oui, non, c'est ça, verset 16. Je me suis trompé de chapitre. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'il avait guéri le jour du sabbat. C'était une autre façon d'approcher Jésus, de le poursuivre, pour essayer de l'éliminer. La caractéristique d'un pharisien, c'est quoi ? Un pharisien, ça pose toujours des questions. Si vous regardez dans tous les entretiens que Jésus a avec les pharisiens, très rarement Jésus pose des questions, très souvent c'est eux qui posent des questions. Et globalement, il y a deux grandes façons de questionner. La première, c'est de questionner pour se renseigner, c'est-à-dire si je veux un comprendre quelque chose, vraiment, je cherche à savoir, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer, ou questionner demander un renseignement, une information complémentaire, ou une information sur n'importe quoi. Ça, c'est une des grandes façons de questionner, qu'on utilise au quotidien. Et il y a une deuxième façon de questionner, qui est la question orientée. la question qui poursuit un but bien précis. C'est-à-dire que on pose la question parce que on a un plan avec cette question. Et le plan notamment, c'est celui de faire chuter la personne. C'est de la faire réagir de telle sorte à ce qu'elle se trompe. Qu'on arrive à déceler chez lui la faille. Et ça, c'était la façon de questionner des pharisiens tout le temps. Luc 11, 53. Les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche, pour avoir de quoi l'accuser. Les pharisiens se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent. Ça, c'est la caractéristique même des pharisiens. Je questionne, je fais semblant que je questionne pour savoir quelque chose, mais finalement, dans ma question, il y a un piège. Et Jésus le savait. Jésus savait que les pharisiens ne voulaient qu'une chose, s'approcher de lui, donc il le poursuivait pour l'éliminer d'une façon ou d'une autre. Il est dit à plusieurs reprises pour voir comment ils pouvaient le tuer, et sinon ils utilisaient donc leurs compétences qui étaient celles de docteurs de la loi, et ils essayaient alors de le tuer, si ce n'était pas possible, de le faire taire, pour qu'ils disent des bêtises, et que de ce fait, ils puissent dire, vous voyez ce qu'il a dit ? On ne peut pas lui faire confiance. C'était comme ça qu'ils avaient planifié d'approcher Jésus. Et c'est pourquoi ils étaient autour de lui sans arrêt, pour essayer de le faire tomber. Les pharisiens ne cherchaient pas à apprendre, donc ils cherchaient juste un moyen de faire taire le Messie envoyé par Dieu. Les pharisiens aussi pensaient connaître Dieu. On a vu que Nicodème a dit « Nous savons ». Et Jésus, au chapitre 5 et au verset 37, il dit « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Sa parole ne demeure point en vous. Et parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé, vous sondez les Écritures. Parce que vous ne croyez pas, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais, que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire si vous cherchez votre propre gloire? Oui, mais Seigneur, le plus important, est-ce que c'est pas juste de venir à toi? Comment peux-tu croire si tu ne cherches que ta propre gloire? dire ça à un pharisien, c'était vraiment vouloir le mettre en colère. C'était inévitable qu'il se mette en colère. C'était inévitable que Jésus leur dise la vérité. Parce que s'il ne leur disait pas la vérité, il ne pouvait pas les sauver. Il se glorifiait d'être supérieur aux autres hommes, d'avoir une meilleure compréhension de Dieu, d'avoir une meilleure attitude que les autres. Et c'est précisément ce que Jésus leur reprochait. Mais ce n'est pas tout. Si l'on continue au chapitre 7, on s'aperçoit que était avec lui, ou restait avec lui, pour des motifs qui étaient fallacieux. C'est 7, verset 3. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais enfin, si tu as un don de Dieu, tu ne peux pas rester comme ça sans que personne te voie. Il faut l'utiliser, le faire fructifier, et il faut que ça serve à la gloire de Dieu. N'est-ce pas, mon frère? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Il voulait être au bénéfice de la lumière que Jésus apportait sur la famille. Peut-être qu'il y avait de l'argent à faire, qui sait. Il souhaitait que Jésus devienne une sorte de bête de cirque. De là où il passe, il ferait des miracles, que ça attirerait les foules encore plus, et que peut-être il y avait là un peu d'argent à faire, peut-être en faisant payer les entrées. 18 euros le concert, merci. Enfin, excusez-moi, mais je ne sais pas si c'est très différent. La grande question de l'évangile de Jean, je crois, en tout cas c'est comme ça que ça m'est apparu, c'est la question que Jésus pose aux pharisiens, mais qu'il nous pose à tous. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Comment pouvez-vous croire? Et c'est là la distinction que faisait Jésus entre toutes les approches qui ont été effectuées vis-à-vis de lui. Et je crois que c'est la question qui doit résonner à nos oreilles ce matin. Comment est-ce que je peux croire? Vous me direz, mais ça fait longtemps que je crois. Ça fait longtemps que j'appartiens au Seigneur. Ce message n'est pas pour moi, c'est un message d'évangélisation que tu nous fais. Alors je ne réponds pas à ça, mais je réponds, comment peux-tu croire ? s'il y a dans ta démarche un soupçon même de volonté de gloire personnelle. Hein, mais j'ai pas envie de monter sur les planches, j'ai pas envie. Je comprends, je suis sûr que chacun me comprend bien. S'il y a dans notre démarche le moindre soupçon de gloire personnelle reçue par les uns, reçue par sa famille, le sentiment d'importance qui naît de ce que j'ai fait ceci ou cela, s'il y a ce moindre soupçon, Jésus te répète la question. Comment peux-tu croire? Parce que la seule approche qui est valable, c'est celle où on s'approche de Christ dans l'humilité. C'est celle où on s'approche de Christ en n'ayant plus rien. Et avec un cœur brisé. Parce que Jésus connaît exactement l'état de mon cœur et de nos cœurs. N'est-ce pas la corruption des cœurs des pharisiens suintait lorsque Jésus apparaissait. Ça lui est, c'était odieux pour lui. C'était odieux. Pour nous, c'est rien. On fait partie des mêmes choses. On partage la même origine pécheresse. Mais pour Jésus, c'était odieux. C'était exécrable. C'était impossible de faire quelque chose tant que l'humilité n'était pas venue. Cette propre justice qui leur collait à la peau. Je ne peux rien faire. Comment pouvez-vous croire? Cette incrédulité, même dans sa famille. Mais malgré ça, et à cause de ça, parce que en même temps que Jésus était horrifié par le péché, il mesurait la nécessité du salut pour l'homme, pour vous et pour moi. Et c'est pourquoi il est allé jusqu'au bout. Ne suis-je pas venu pour cette heure? N'est-ce pas? Lorsqu'on dit qu'il doutait, il dit non, j'y vais. Ne suis-je pas venu pour cette heure? Pour ce sacrifice? Ne suis-je pas venu pour monter sur cette croix? Et faire en sorte que tout ce que j'ai repéré durant mon ministère, toute cette somme de péché, d'incrédulité, de propre justice, toute la méchanceté dans l'homme. Je suis venu afin que vous puissiez être pardonnés, afin que vous puissiez recevoir la délivrance de ce que vous êtes. Je suis venu pour cela. Et c'est parce que je connais bien vos cœurs que je peux bien vous sauver. Là où Jésus aurait pu abandonner peut-être, c'est lorsque son ami Judas l'a trahi. La trahison, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans une vie. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture de la trahison. Aujourd'hui, c'est bien vu que de trahir à bon escient. Si vous ne faites pas ça, enfin, vous faites partie des sous-hommes. C'est un mode de vie aujourd'hui, la trahison. Il n'y a qu'à regarder la politique, on peut regarder toutes ces choses-là, c'est quotidien. Et c'est avec le sourire que ça se passe. C'est convenu. Tu m'as trahi, je t'ai trahi, c'est bien. On a chacun gagné, gagnant-gagnant, vous avez déjà entendu ça, gagnant-gagnant. Ce genre de stupidité façonne la société aujourd'hui. Et j'aimerais, frères et sœurs, que nous ne soyons pas victimes de cela. Mais je crois que Jésus avait perçu la fêlure démoniaque chez Judas. Il avait vu l'œuvre de Satan. Et il a continué. Il a dit, je suis venu pour cette heure. Et Jean a dit, j'ai écrit ces choses pour que vous sachiez qu'il est le Messie. C'est pour vous, c'est pour moi que Jésus est venu. Quel que soit le profil, même si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, Jésus est venu pour toi, pour moi. Révéler l'état de mon cœur et parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour vous permettre de vivre en nouveauté de vie. Alors si le Seigneur vous a touché, si vous pensez que ce message s'applique à vous, j'aimerais qu'on passe encore 2-3 minutes dans le silence ou dans la prière audible, comme on veut, et qu'on puisse remettre chacun nos vies, nos cœurs entre les mains du Seigneur, afin qu'il agisse dans nos vies pour la vie éternelle. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi. Seigneur, te dire que nous sommes d'accord pour que tu sondes nos cœurs. Seigneur, nous sommes d'accord afin que tu nous dises la vérité sur nous-mêmes. Seigneur, parce que nous savons que ton jugement est destiné à notre salut. Nous savons, ô Dieu, que tu n'es pas là pour nous faire du mal, pour agir avec méchanceté et rudesse comme on a pu agir avec nous dans le passé. Mais tu agis avec vérité dans nos cœurs, parce que tu souhaites nous accorder un plein salut, un salut complet où nous serons délivrés de façon parfaite. Seigneur, nous voulons nous présenter le cœur ouvert devant toi, afin, Seigneur, que de ton regard perçant, Seigneur, tu amènes à la surface, tu révèles ce qui jusqu'à présent est resté dans l'invisible, ce que jusqu'à présent a été caché, sans le faire exprès ou en le faisant exprès. Seigneur, que tu nous convainques de péché, de justice et de jugement. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que nous aimons ton jugement. Seigneur, nous sommes d'accord pour que tu nous parles. Seigneur, que tu règles les choses qui n'ont pas été réglées jusqu'à présent. Nous sommes d'accord d'agir sur ta parole et de faire les choses que tu nous demandes de faire. S'il faut demander pardon, s'il faut réparer quelque chose. Seigneur, nous ne voulons pas être trouvés pharisiens éternellement. Nous ne voulons pas être trouvés incrédules éternellement. Nous ne voulons pas être trouvés, Seigneur, hors de la vérité jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, nous ne voulons pas que le péché nous condamne. Mais nous voulons être au bénéfice de la croix, Seigneur, ce matin. Ce sang qui a coulé, Seigneur, le faire nôtre, afin qu'il nous lave complètement. Et qu'aujourd'hui nous puissions marcher en nouveauté de vie. En le nom de Jésus. Amen.